Vous écoutez RTL.
RTL. Sérendipité, en voilà un mot compliqué, hein. Mais justement, c'est pour ça qu'il plaît et qu'on s'en amuse. Il s'agit d'un hasard heureux ou même d'une erreur fructueuse. On cherche quelque chose, on ne le trouve pas tout de suite, et puis voilà qu'on tombe sur ce qu'on ne cherchait pas, mais qui est une découverte beaucoup plus désirable.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Trouver ce que l'on ne cherchait pas, c'est peut-être aussi à ça que l'on reconnaît un bon scientifique. On vous raconte les découvertes dues au hasard que l'on peut regrouper sous ce mot que vous venez d'entendre, sérendipité. Et c'est notre invité Danielle Boursier, directrice de recherche émérite au CNRS, qui va nous raconter ces histoires. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Bienvenue. On va commencer, avant d'expliquer le mot, son origine, etc., par une première histoire qui nous emmène au Far West. On est en 1849. Un jeune émigrant allemand qui vit à New York veut participer, comme tant d'autres, à la ruée vers l'or. Comment s'appelle-t-il et qu'apporte-t-il avec lui?
Alors, cette histoire, c'est l'histoire du jean.
Ouais.
Effectivement, un jeune bavarois plein d'espoir et de curiosité part à New York. C'était la mi-siècle dernier, au moment de la ruée vers l'or, des prospecteurs, des mineurs, etc. Tout un contexte. Et puis, New York, finalement, il l'ennuie quand même assez rapidement. Et il décide d'aller en Californie.
Donc, il s'appelle
Strauss.
Lévi-Strauss.
Pas encore.
Pas encore, ça deviendra Lévi-Strauss.
Et il prend le bateau avec une série des rouleaux de toile qu'il espère vendre justement aux prospecteurs, aux mineurs en Californie, et même sur le bateau. Effectivement, ça marche assez bien.
Les toiles qui sont destinées à servir à quoi?
Alors, essentiellement pour des tentes, des campements, des abris de fortune. Hein. Et donc, il n'a pas du tout pensé en termes de vêtements. Et puis, il en vend une grande partie sur le bateau, et puis il arrive quand même, il en reste quelques-uns, quelques rouleaux. Alors, quelqu'un lui suggère, mais il faut absolument faire quelque chose. Et ils réfléchissent et finalement ils disent, mais pourquoi, regardez, tous ces gens qui sont mal habillés, déchirés, etc., après toute cette traversée, pourquoi vous ne leur proposez pas des vêtements avec cette toile? Et finalement, c'est ce qui a été fait avec les caractéristiques qu'on connaît encore des jeans, c'est-à-dire, bon, des toiles, on verra qu'elles ont un peu évolué, mais avec des rivets sur les endroits stratégiques, des travailleurs de force, on peut dire, et pas de salopettes. Alors ça, c'était un peu leur principe. Alors finalement, ils ont pris une toile après qui était un peu plus légère, bon, pas trop, et puis ils ont
le
fait
denim,
un bain.
C'est ça,
le denim, ouais. Denim, et puis après ils ont utilisé donc un colorant pour avoir cette couleur, que c'est pour ça qu'on appelait ça blue jean.
Nous, on appelle ça le jean aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quel genre de matière? C'était déjà résistant comme ça?
C'était
un petit
plus
peu...
résistant encore, très rêche, très, ouais. très lourd. Et je ne sais pas comment ça devait... Enfin, en tout cas, pour les activités qu'ils avaient, je pense que c'était des vêtements complètement adéquats. Mais bon, je vous passerai la success story après, mais bon...
Ça démarre comme ça.
Ça démarre comme ça.
Danielle Boursier, vous publiez avec Peg Van Andel, j'espère que je prononce bien son nom. C'est quoi la sérendipité? C'est au courrier du livre. Alors ce mot, il est dans le dico. Ou il ne l'est pas, dans notre dico à nous, parce que c'est un mot anglais à l'origine.
Alors, justement, sérendipité, c'est un mot, on va dire, un mot curieux, qui excite la curiosité.
Vous êtes au bon endroit.
Je pense. Donc c'est Merton, en fait, c'est pas de moi. C'est Merton qui est un peu le père de la sérendipité, qui a dit ce mot. Et à cette
Attendez, je vous interromps, parce que là, vous repartez au début. D'abord, la question, c'est... Est-ce qu'il est dans notre dico?
Alors, il est dans le dico, dans les usuels. Ça, c'est clair.
D'accord.
Depuis 2012.
Robert et Larousse, on trouve.
Exactement.
La sérendipité.
Vous trouvez la sérendipité, l'art de faire des trouvailles, etc. Bon, c'est assez succinct, mais ça existe.
Non. C'est, si je résume ça en deux mots, heureux hasard, je suis à peu près dans le juste.
Oui, on peut dire ça comme ça.
D'accord.
Heureux hasard.
Et si on veut être plus complet?
Alors, c'est l'art d'observer des faits imprévus, inattendus, et de faire, à partir de ces faits, une inférence réussie. Alors, juste un petit exemple pour bien, oui, bien cadrer. Bon, Fleming laisse dans une caisse, avant un week-end, enfin bon, des bactéries. Et une culture de bactéries. Il revient quelques jours après et la culture de bactéries a considérablement diminué. Et en revanche, autour, une sorte de couronne de moisissures s'est développée. Alors, évidemment, comme il l'a dit déjà, notamment lors de son prix Nobel, plein de gens n'auraient peut-être pas du tout observé ça. Et c'est ça la question essentielle.
Ah, il a su remarquer la moisissure.
Il a su remarquer. Ah,
oui. C'est-à-dire qu'il y aurait d'autres chercheurs qui l'auraient jeté à la poubelle, voilà. La boîte, et lui il s'est dit, je vais peut-être en faire quelque
Exactement.
Chose. Et qu'est-ce qu'il en a fait ?
Alors, ce qu'il en a fait, c'est qu'il a bien sûr tout de suite examiné les moisissures, et il a, alors il n'a pas tout de suite, mis en lumière la pénicilline. Ça demandait plus de travaux, mais en fait, en gros, il a gardé cette observation de côté, et il a ensuite, il y a eu un certain nombre de développements scientifiques, etc. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est effectivement le sens de l'observation.
Et donc ça, c'est une grande qualité scientifique.
C'est une grande, mais à l'heure d'Internet, justement, cette qualité scientifique, elle est plus ou moins remise en cause.
Pourquoi ?
Bah, par exemple, regardez, on fait des opérations maintenant à travers un écran, etc. C'est-à-dire, il y a une espèce de médiation maintenant par l'informatique qui empêche peut-être l'observation de tout simplement de ce qu'on appelle la réalité.
Oui,
il faut
et être à la fois,
aux erreurs. Ouais,
mais enfin, à la fois, vous savez qu'on dit qu'on surfe sur le web, même ça fait un peu ringard de dire ça. Mais quand on surfe, on passe d'une page à l'autre, une info nous amène à une autre info, et on tombe souvent sur d'autres infos qu'on ne cherchait pas. Donc ça aussi, c'est la sérendipité.
Alors, moi, j'ai une position un peu différente. Je pense que de toute façon...
Débattons, madame, débattons.
C'est pas du tout évident que ça soit un hasard. Ouais. Vous savez que algorithmes de Google, etc., il y a 200 règles, au moins, on ne sait même pas, on ne les connaît pas, mais on sait qu'il y en a un certain nombre, et croyez-moi, vous ne tombez pas complètement par hasard sur tout. Voilà.
Ouais. Et donc, vous nous dites que c'est une qualité scientifique, qu'il faut avoir finalement le regard et l'esprit ouvert face à une erreur, un hasard. Alors on va continuer de prendre des exemples, parce que parfois c'est pas forcément l'auteur du geste, ça peut être son client. On va prendre un exemple qui nous emmène de nouveau à New York. On est au début du 20e siècle avec un certain Thomas Sullivan. Il est question de thé.
Alors, ce Thomas Sullivan est un grossiste en thé, et il a l'habitude d'envoyer à ses clients des échantillons pour leur permettre de faire des commandes, et des échantillons dans des petites boîtes. Et puis tout d'un coup, il trouve que vraiment ces petites boîtes, ce système de petites boîtes n'est pas très pratique. Il décide de mettre ça dans des petits sachets. Et donc les clients reçoivent les sachets. Et au lieu d'ouvrir le sachet comme d'habitude et de le mettre dans de l'eau chaude, ils disent mais et tous ont fait pratiquement la même chose. Ils ont pris le sachet, ils l'ont mis directement dans l'eau chaude. C'est rien, c'est un petit détail. Mais ça a
c'était
été
des sachets en papier ou en soie déjà.
Oui, en soie. Donc voilà, c'est aussi un autre élément de la sérendipité, c'est le détournement. On a parlé de l'observation, il y a le détournement d'usage qui est extrêmement important.
D'où on parlait de l'étymologie et de l'origine de ce mot. D'où il vient ce mot sérendipité? Alors, en anglais déjà?
Sérendipité qui intrigue, comme je vous le disais beaucoup. Alors, sérendipité vient du mot sérendip. Sérendip, c'est le nom de Ceylan qui est devenu le Sri Lanka, c'est cette île que vous connaissez. Pourquoi cette île? Parce qu'il y a un conte qui a été écrit en 1302 d'Amir Khusraw, qui était un persan indien, et qui a intitulé donc son conte Les contes des fils de la sérendipité, des princes de Sérendip. Et c'était donc c'est de là que vient le mot sérendipité, de l'histoire des princes de Sérendip. Ce terme de Sérendip a été réutilisé alors des siècles après par un bibliomane, enfin que vous devez connaître sans doute, Walpole, qui était un défricheur extraordinaire. Vous savez, des maîtres linéaires de lettres. Un grand épistolier. Ouais. Et lui, il avait lu Amir Khusraw, quand même à peu près plusieurs siècles auparavant, qui avait écrit plusieurs siècles. Et alors, il a repris ce terme, et il a considéré que le mot sérendipité représentait, alors ce qu'il a dit, je ne le dirai pas en anglais, ce qu'on découvre par accident et sagacité, et on découvre des choses qu'on ne cherchait pas.
Et alors c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas seulement le hasard, il y a aussi la faculté de celui qui est confronté à cette erreur ou à ce hasard à en tirer l'essentiel. Tiens, saviez-vous que le café a été découvert grâce à des chèvres et que la mayonnaise a été inventée sur une île espagnole? Pour les détails, c'est dans une minute sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café.
La curiosité, c'est un vilain défaut, sauf jusqu'à 22h sur RTL, et sauf quand on est scientifique comme notre invitée Danielle Boursier, directrice de recherche émérite au CNRS. Avec vous, on détaille l'histoire de ces découvertes dues au hasard et qui ont bouleversé le cours de l'histoire. C'est ça qui est fort de café et qu'on apprécie. C'est ce que l'on regroupe sous le mot de sérendipité. Et l'une des plus vieilles sérendipités concerne le café. On est en 330 avant notre ère. Que se serait-il passé? Parce qu'on n'est jamais sûr dans ces histoires. Dans le désert du Yémen.
Alors, dans le désert du Yémen, c'est l'histoire du berger, du chevrier, Khaldi, qui avait donc un troupeau de chèvres, normalement. Et les chèvres évoluaient. Et de temps en temps, elles partaient dans la montagne. Elles prenaient un peu de liberté et de fraîcheur, et elles partaient. Bon, aucun problème. Et puis un jour, ces chèvres sont revenues 8 jours après. Extrêmement excité, et Khaldi ne les reconnaissait pas. Bon, il a dit, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ça revenait régulièrement. Un jour, il va voir l'imam, et puis il lui dit, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Je ne reconnais plus mes chèvres. Alors l'imam lui dit, il faut que tu le suives.
J'ai des chèvres insomniaques.
Exactement, très 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 excité. Vous savez, les chèvres sont quand même assez capricieuses, d'où vient le mot capricieux. Et donc, il les suit. Et il découvre qu'elle mange une petite baie rouge sur un petit buisson, pas très grand, et qu'elle revienne. Et visiblement, c'est cette petite baie rouge qui les excite beaucoup. Alors, il en ramène une et il la donne à l'imam. Et l'imam, il a une réaction extrêmement normale. Il la fait chauffer, il fait une décoction et il commence à prendre cette décoction. Et il s'aperçoit effectivement que lui aussi est dans des transes incroyables. Et il ne peut plus dormir. Et l'histoire qui est rapportée par un moine maronite dit qu'il sentait la pulsation de son cœur, et notamment lors de la prière le soir, il était absolument intarissable.
Donc c'est plus l'effet du café que le goût du café au début qui intrigue et qui attire.
C'est l'effet du café, exactement, parce que le goût n'est pas très bon, hein, visiblement, hein. Mais cet effet est absolument, bon, alors insomnie, excitation, légèreté du corps, enfin, tout ça est décrit très bien dans ce conte. Voilà.
Et vous penserez aux chèvres du désert du Yémen la prochaine fois que vous siroterez un café. Cette histoire, vous la racontez dans ce livre, C'est quoi la sérendipité, qui est publié au courrier du livre 80 découvertes dues au hasard qui ont bouleversé le cours de l'histoire. On va rester dans les placards de nos cuisines avec la mayonnaise. Son nom viendrait des Baléares. Alors ça aussi, c'est surprenant. Vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Oui, alors l'histoire, là aussi, peut-être apocryphe, j'en sais rien, mais en tout cas...
Racontons la légende.
Toutes ces narrations méritent d'être racontées. Alors oui, c'était une guerre entre les Anglais à Minorque. Et
Anglais et Français, c'est ça?
Anglais et Français, et les Français gagnent. L'amiral, qui était en fait un petit-neveu de Richelieu, gagne la bataille. Et pour fêter ça, en bon français, il décide de faire un grand banquet et d'inviter tout le monde. Alors le cuisinier n'avait pas grand-chose.
Ça se passe à Port-Mahon, pardon, alors, je vous interromps.
C'est exactement à Port-Mahon. D'ailleurs, ouais. Ça aura de l'intérêt après. Et il a presque rien, il lui reste pas grand-chose après cette guerre. Il veut faire notamment une sauce et il a plus de crème. Alors il dit, bon, mais c'est très simple, je vais changer la crème pour la mayonnaise, pour l'huile. Et il découvre la mayonnaise avec son côté levé l'huile, etc. Ouais. Et le sert, tout le monde trouve ça délicieux. Et c'est, alors, lui donner un nom... En fait, mayonnaise est venue, paraît-il, de Port-Mahon. Port-Mahon. Mais alors, Bayonne a revendiqué aussi...
De Bayonne?
Oui, la ville de Bayonne. D'accord. Enfin, tout le monde a revendiqué...
C'est-à-dire Mahon, mayonnaise, c'est ça? On est proche phonétiquement?
Oui, oui. C'est ça.
Ah oui, c'est capillotracté, mais enfin bon.
Oui, pourquoi pas.
Mais d'ailleurs, sur les découvertes culinaires, il y a souvent des bagarres. On parlait de la tarte tatin juste avant de démarrer l'émission. Soi-disant, c'est une erreur, la tarte qui s'est
retournée. Des sœurs qui font tomber leur tarte, ouais, c'est l'histoire qu'on raconte.
Je pense que c'est l'histoire la plus emblématique de la sérendipité. Effectivement, oui. Elle est rigolote. Mais bon, alors... Alors, à Romorantin, en revanche, il existe toujours, si vous voulez manger des bonnes tartes tatin, ça existe toujours dans ce restaurant. Vrai. Non, alors ces trois sœurs Tatin. Alors ce qui était intéressant, parce qu'il y a plein de versions. Une version dit que il y avait trois sœurs Tatin qui avaient des caractères différents. Et il y en a une qui était étourdie, donc elle avait mis la tarte par terre. L'autre qui était amoureuse, l'autre etc. Vous savez, il y a une narration absolument extraordinaire dans la sérendipité. Oui. Je crois que c'est ça qui est aussi l'intérêt de ce terme.
Alors on parlait de Coco Chanel tout à l'heure et de ses derniers mots, ses mots de la fin avec notre invité précédent. Son parfum, le plus célèbre, doit aussi beaucoup, lui, à la sérendipité, au heureux hasard. Tout commence par une commande à un parfumeur de Grasse. Que réclame Mademoiselle Chanel? Que veut-elle?
Alors, elle veut un parfum qui ressemble à une robe, qui serait fait comme on fait une robe. Voilà sa commande à un parfumeur qui est en fait un chimiste qui s'appelle Beau, qui a été pas beau beaucoup aussi en Russie, etc. Et qui a beaucoup de qui a beaucoup d'amitié pour Coco Chanel, un petit peu de crainte parce que c'était quand même un personnage assez volontaire.
Oui, puis bonjour la commande, un parfum qui ressemble à une robe.
Sacré défi, oui.
Alors,
je vous laisse vous débrouiller, moi.
Il fait ses petites ses mélanges, il met ça dans des petite pipette, et puis il décide de lui envoyer. Alors ce monsieur Beau avait une particularité, il avait découvert en tant que chimiste des adélides qui sont des composants qui sont très forts au niveau de l'odeur. Bon, il en avait mis, et particulièrement dans une pipette, il avait mis beaucoup. Et il envoie ça, et il s'aperçoit que celui qui devait mettre n'était pas envoyé et qu'il avait envoyé un mauvais. Alors il essaie de rattraper, il s'excuse et Coco Chanel lui répond « Ne changez rien, j'adore ce parfum ». Et c'était précisément celui qui avait, en fait était une erreur.
Et c'était l'échantillon numéro...
C'était l'échantillon numéro 5.
Et ben voilà, il a gardé ce nom-là.
Et ils ont gardé ce nom-là.
Et c'est le parfum le plus vendu au monde, ou peut-être l'un des plus vendus au monde.
La médecine doit aussi beaucoup hasard, du stéthoscope à la pénicilline, en passant par le Viagra. On vous raconte ses découvertes dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce sont des découvertes dues au hasard qui ont changé le cours de l'histoire. On vous raconte comment ces découvertes sont intervenues grâce à Danielle Boursier, qui est directrice de recherche émérite au CNRS. On regroupe ces découvertes, Danielle Boursier, sous un mot qui est entré depuis 2012 dans notre dictionnaire, la sérendipité. C'est un mécanisme qui vous passionne depuis longtemps. Pourquoi ?
Parce qu'il rencontre beaucoup d'intérêt que, notamment en matière de recherche, puisque je suis dans le domaine de la recherche, j'aime beaucoup qu'on puisse faire confiance à l'observation, au hasard, aussi un certain empirisme, et que on puisse en parler. Très souvent, il faut souvent attendre les prix Nobel et les discours des prix Nobel pour que les chercheurs osent dire que certaines découvertes qu'ils ont faites, c'est avec beaucoup de hasard.
Vous connaissez tous cette expression, le hasard fait bien les choses.
Oui, mais c'est un peu ça.
Mais ça veut dire confiance.
Oui, ça veut dire, pardon, je vous interromps, ça veut dire accepter l'idée de se tromper aussi,
et
de faire des erreurs.
De se tromper, c'est une grande modestie. C'est d'ailleurs le terme et tout le champ, si vous voulez, est intéressant pour ça. Il y a de l'humour, il y a justement la notion d'erreur, la notion de maladresse, la notion de détournement d'usage. C'est quand même assez agréable.
Et de surprise aussi, et de jeu.
Et de jeu. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que ce terme, en fait, je suis tombée dedans. Et voilà, avec Peg Van Andel, on a écrit déjà notre troisième bouquin. Alors.
Peg Van Andel qui co-signe C'est quoi la sérendipité, publié au courrier du livre. Alors on va parler de médecine maintenant, parce qu'elle a elle aussi souvent progressé grâce au hasard. On va commencer avec le stéthoscope, puis ça nous fait voyager dans le temps et dans l'espace aussi. Alors là, dans l'espace, on voyage pas beaucoup puisqu'on est à Paris en 1816.
Il y a Dr House, vous l'entendez, qui arrive avec son stéthoscope.
C'est une erreur historique, parce que là on est en 1816.
On adore les anachronismes.
Voilà, c'est un anachronisme. Il faut revenir au début du 19e siècle avec le docteur Laennec, qui est appelé, on imagine la scène, au chevet d'une malade du cœur. Il traverse la cour du Louvre. Et qu'est-ce qu'il voit ?
Alors, il voit des enfants qui jouent dans un coin sur un tas de pierres avec des poutres, des madriers, etc. Mmh. Et il observe justement deux enfants qui sont chacun au bout d'une poutre. Et l'un essaie de gratter avec des épingles un côté et l'autre entend.
Et il a l'oreille posée contre le bois de la poutre à l'extrémité.
Même à une poutre de 4 mètres, ouais. C'est assez exceptionnel. Mm-hmm. Suffisamment pour que des enfants jouent avec ce phénomène. Et Laennec passe et voit ça. Et il arrive chez la malade, la patiente, et veut l'ausculter. Or, cette femme a un peu d'embonpoint. Il essaie de l'ausculter sur son cœur directement, comme ça se faisait, et il n'y arrive pas. Et tout d'un coup, il pense comment il pourrait utiliser ce qu'il vient de voir. Et alors, il serre très fort du papier, enfin un rouleau de papier, pour en faire une sorte de stéthoscope. Et se met à essayer d'écouter le cœur et les pulsations de la jeune femme. Et ça marche très bien. C'est l'origine. Vous voyez l'intérêt
Donc
de...
Donc il faut un intermédiaire, c'est ça, entre le cœur de sa patiente et son oreille.
Exactement. Et il y a tout un phénomène acoustique qui se passe et qui après, d'ailleurs, a été tout à fait accepté dans toute la clinique française.
Parce que le cœur résonne, c'est ça, dans les membres membrane de papier ou le stéthoscope.
Voilà.
Qui est donc
et donc
en,
il l'a perfectionné après, c'est ça?
Oui, il l'a perfectionné, mais le stéthoscope existe toujours et c'est une invention française. Hein.
Et on dit que c'est quoi? C'est le premier instrument de diagnostic physique,
oui,
en quelque sorte?
Bien sûr, oui. Ouais.
Alors, il y a l'histoire de la pénicilline que vous nous avez racontée tout à l'heure avec, avec l'anglais Alexandre Fleming en 1928. On va rester en Angleterre, mais on remonte 150 ans en arrière. 1776, on va parler de vaccination. Qui est Edward Jenner?
Alors, ça, c'est aussi une histoire extrêmement intéressante qui commence par une sorte presque de folklore, d'histoire qui se relayait dans les campagnes. C'est, imaginez l'Angleterre, une période pas très facile pour les paysans. Mmh. Et il y avait énormément de ce qu'on appelle la vaccine, etc. Enfin, une sorte de succès d'année de la variole, et puis beaucoup de variole aussi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le docteur Jenner sait qu'il y a un bruit qui dit que quand une trayeuse de vache attrait une vache qui a la variole, elle est susceptible d'avoir une forme extrêmement atténué de la variole. Mmh. Personne, évidemment, n'avait entendu parler de ça. Hein. Ouais. Et lui décide de tester cette histoire qui traîne dans les campagnes anglaises. Et à ce moment-là, il fait une expérience. Il prend effectivement des pustules de la vaccine qui était là sur les bras de la femme et il l'injecte à un petit garçon qui se prête à l'expérience. Et eh bien, le garçon, évidemment, fait une fièvre, mais beaucoup plus atténué et finalement guéri assez vite. Et en fait, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, tout d'un coup, c'est le principe de la vaccination qui est découvert. En inoculant à faible dose une maladie, on peut effectivement donner la maladie, mais dans ses aspects les plus doux, les moins graves.
Et donc, on est en 1767. Edward Jenner, des lieux ou des événements doivent aussi beaucoup au heureux hasard.
Vous écoutez RTL.
J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport.
Tu trouveras
mes blessures et mes faiblesses.
J'ai voulu partir vers la découverte de choses nouvelles.
On se retrouvera.
Jusqu'à 22h.
On se retrouvera.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Francis Lalanne, Patricia Carly, Natacha Saint-Pierre, Pierre Vassilou, qui célèbrent la découverte, la serendipité. Moi, je le dis en anglais.
Vous dites en anglais,
j'aime
c'est
bien
drôle,
serendipity, parce que c'est la première fois que j'ai entendu, c'est comme ça. Je peux parler en anglais ce soir. Ah, ça, c'est chouette. 80 découvertes dues au hasard qui ont bouleversé le cours de l'histoire. C'est le thème de notre curiosité et du livre de notre invité, la scientifique Danielle Boursier. Alors, des événements historiques majeurs doivent beaucoup au hasard, à commencer par un événement incroyable, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est pas du tout ce qu'il cherchait, l'Amérique?
Alors, c'est un cas aussi extrêmement intéressant. Christophe Colomb était un navigateur. C'était quelqu'un d'extrêmement courageux. C'est aussi une dimension qu'on peut ajouter à l'opiniâtreté, le sens de l'observation. Et il voulait absolument rejoindre, en fait, par l'Ouest, l'Inde. Donc, il cherchait beaucoup d'argent il était génois d'origine. Hein. Il est allé à la cour d'Espagne, Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon, et ils ont fini par accepter de lui permettre d'affréter une première expédition. Il en fit trois. Et c'est au bout de la première qu'il toucha la première fois la terre du côté de Saint-Domingue, donc la terre qui sera appelée la terre américaine, la terre d'Amérique. Et il a failli, d'ailleurs, sa faillite est assez difficile, l'accostage, on va dire. Oui. Et la mer avait été extrêmement mauvaise, l'équipage n'était pas content du tout, et il ne savait pas trop comment il allait se débrouiller. Et tout d'un coup, il a vu un vol d'oiseaux, et en général, les bons marins savent que les oiseaux sont, en général, indiquent qu'il y a une terre qui n'est pas loin. Donc, il a suivi les oiseaux, et finalement, ils ont réussi à accoster dans la tempête de la mer des Antilles. Ils ont réussi donc à accoster.
Donc,
voilà,
c'est pas forcément
la première expédition.
Ouais. Voilà. Donc c'est pas forcément le hasard. Il a fallu de l'audace aussi, c'est ça, pour que Christophe Colomb arrive et découvre l'Amérique, même si c'est pas ce qu'il cherchait.
Ouais. Le profil, enfin, on parle un petit peu, le profil des gens qui s'intéressent à la sérendipité, mais plutôt les gens qui ont été dans une histoire de sérendipité, ce sont, je l'ai dit, les qualités d'opiniâtreté, d'originalité dans la pensée, de se faire confiance à soi-même, aussi de modestie, parce qu'ils n'ont pas tous été récompensés. Hein. Il y a des gens qui ont fait des avancées superbes et qui n'ont été récompensés qu'après leur mort.
Ouais, et donc, d'audace, c'est depuis tout à l'heure, je vous écoute, Daniel Boursier, et je me dis, mais est-ce que notre système éducatif prépare à ça?
Alors ça, c'est une vaste question. Moi, ça m'intéresse énormément, parce que justement, cet aspect de pédagogie, alors on réduit un petit peu la question à dire, est-ce que la sérendipité, ça s'apprend? Non, la question, elle n'est pas là. D'ailleurs, c'est presque une contradiction. Comment on pourrait apprendre, comment inventer? C'est pas possible. En revanche, qu'on peut tirer de tout cela, c'est que l'idée de faire des enfants des répétiteurs d'expériences, des grands anciens qui ont trouvé des choses et qu'ils répètent seulement la façon dont les résultats ont été trouvés, ça me paraît quand même insuffisant.
Et puis il faut les encourager, ces enfants, à se tromper, à lever la main et mal répondre.
Voilà.
Les bonnes maîtresses ou les bons maîtres ou les instituteurs et institutrices disent ça. N'hésitez pas à lever la main, trompez-vous. Au contraire.
Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça veut dire qu'en fait, il faut concevoir une pédagogie où l'enfant peut sans problème, sans complexe se tromper, mais aussi il faudrait lui donner la possibilité d'expérimenter un certain nombre de découvertes pour qu'il arrive à trouver le mécanisme de la découverte elle-même et pas seulement le résultat. Et c'est totalement différent, vous voyez, comme approche de la science ou pas seulement de l'art, etc. Comment Kandinsky a inventé l'art abstrait, comment les collages de harpes ont été trouvées, etc. Ce sont des choses extrêmement intéressantes parce que le hasard, justement, joue aussi un rôle important, pas seulement le savoir, tout en sachant quand même que la sérendipité ne s'exerce que sur des esprits préparés, comme disait Pasteur.
Oui, le hasard, l'opiniâtreté, l'audace, l'ouverture d'esprit, voilà, il y a tout ça en fait dans ce mot de sérendipité. Alors il y a une histoire qu'on a souvent racontée, mais bon, on va le faire rapidement parce qu'on l'a un peu annoncé tout à l'heure, c'est le Viagra, ce médicament, il n'était pas prévu pour ça.
Non, pas du tout, c'était un échantillon, on va dire, enfin c'était un groupe, une cohorte d'hommes qui devaient tester des médicaments pour le cœur et qui finalement n'avaient pas tellement envie que l'expérience s'arrête. Et bon, on a compris assez vite que finalement, effectivement, c'est un médicament qui avait des vertus érectiles et donc pas du tout ce qui était au départ prévu. Là aussi, vous voyez le détournement d'usage qui est très souvent le cas de la sérendipité.
Oui, alors il y a les objets, on a parlé de cuisine, on a parlé de découvertes scientifiques, on a parlé de médecine. Et puis il y a aussi les lieux pour trouver la grotte de Lascaux. Là aussi, il a fallu de la chance et de l'audace. On est en septembre 1940. C'est quoi? C'est des jeunes gens qui se baladent avec leurs chiens, c'est ça?
Alors, on va dire des grands écoliers. Hein, ils avaient autour de 10-12 ans.
Hein. D'accord. Ouais.
Bon, ils se promènent avec le chien. Le chien s'appelait Robot, d'ailleurs.
Oui.
Et ils vont dans des endroits, d'ailleurs, où une espèce de clairière où ils avaient l'habitude d'aller, le chien tout d'un coup disparaît derrière un arbre qui est à moitié couché. C'est intéressant le détail parce que cet arbre avait en fait été déraciné et laissait donc une certaine un trou en fait qui n'était pas tout à fait visible et le chien tombe dedans et se met à aboyer. Alors Marcel de Vida, qui était le propriétaire du chien, petit garçon de petit écolier de 12 ans, se précipite pour essayer de récupérer son chien. Et puis il le récupère et il fait tomber un caillou, il entend une sorte d'écho. Je dis, mais c'est pas seulement un trou, c'est plus que ça. Et bon, la nuit arrivant, il décide pour la journée, d'arrêter là, mais bien persuadé qu'il reviendrait.
Oui, et c'est là que l'audace rentre en jeu, parce qu'ils vont revenir un peu mieux équipés.
Et sans en parler à leurs parents, ni à leur maître, etc. Donc c'est un peu une aventure pour eux. Mmh. Aussi important de parler d'aventure. Et ils repartent quelques jours après, pas avec les mêmes garçons d'ailleurs, c'est quatre autres garçons. Et bien là, ils descendent dans cette caverne, cette cathédrale magdalénienne, enfin qu'on connaît, enfin ils découvrent les murs, ils sont complètement fascinés, enfin ils sont abasourdis. Alors là, quand même, les parents les voient arriver dépenaillés, tout poussiéreux, et ils finissent par expliquer comment ils vont depuis plusieurs semaines voir cet endroit. Et c'est là que l'instituteur prévient l'abbé Breuil, qui lui sera le grand, celui qui développera l'ASCO et toutes les recherches.
Merci beaucoup, merci Daniel Boursier. Avec donc Peck Van Handel, vous publiez C'est quoi la sérendipité au courrier du livre. Il y a encore plein d'autres histoires et je vous conseille de le lire, tiens, pour découvrir l'histoire de la chute du mur de Berlin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.